Bienvenue dans l'émission Fréquences follement curieuses. Nous sommes un collectif d'usagers de la psychiatrie qui réfléchit sur les troubles psy, leur prise en charge et le regard porté sur nous. L'émission du jour est consacrée à un thème aussi flou qu'utile, l'espoir. Je suggère qu'en ces temps de plus en plus sombres, on essaye ensemble de penser à ce qui nous fait du bien. Et si pour l'instant il n'y a rien, se laisser porter par les musiques et billets du jour. Yann, Anne-Pauline et moi-même avons écrit nos rêves, nos souhaits, pour un avenir meilleur en psychiatrie. Celui d'Anne-Pauline concerne un bureau d'orientation, Yann, des propositions pour l'après-hospitalisation, et le mien, une volonté d'unir nos forces et d'oser la rébellion, d'oser exister. Yann, tu veux nous dire quelques mots ?
Bonjour, d'abord. Yann, en fait, j'écris des articles sur la santé mentale à Rennes. Et en fait, mes articles sont publiés sur le site InfoPsy Rennes.
Merci. Et moi, c'est Béryl, patiente en psychiatrie. Aujourd'hui, nous sommes deux. Et c'est donc pourquoi je lirai le texte d'Anne-Pauline, qui est physiquement pas avec nous aujourd'hui. Elle est en voyage, mais nous a envoyé une petite utopie pour aider les gens. Elle propose un bureau d'orientation pour les personnes en souffrance psy.
J'ai envie d'en savoir plus.
C'est parti. Alors concentrez-vous et imaginez la voix d'Anne-Pauline. La question que je me suis posée était: que peut-on souhaiter pour faire évoluer les choses sur la santé mentale et les troubles psychiques ? Dans une projection idéale, ce que je trouverais super, ce serait une première porte, ou pouvoir aller frapper si ça ne va pas. Un organisme intermédiaire dans le parcours de soins, comme une sorte de bureau d'orientation. Dans cet idéal, au centre médico-psychologique, au CMP, ou bien dans les centres communaux d'action sociale, CCAS, des personnes pourraient donner un premier avis d'orientation vers les types de thérapies qui correspondent à la problématique de la personne. D'ailleurs, la santé mentale est une question sanitaire, mais dans bien des cas, on est d'abord sur des problématiques sociales. Aujourd'hui, la réponse sanitaire, c'est la psychiatrie, et en cas de crise, la prise en charge est infantilisante. Avec un processus d'orientation adapté, je veux parler de responsabilité des personnes, d'appropriation du parcours de soins adapté. Comment se fait-il qu'on se retrouve dans des cabinets de psychiatres conventionnés, feutrés, les étagères remplies de bouquins savants, de souvenirs de voyages exotiques, avec du mobilier design, etc. On va chez des psychiatres conventionnés parce que la séance est prise en charge d'office par la Sécu, alors que les psychologues cliniciens seraient 1000 fois plus adaptés, mais hors budget. Donc, on est précaire. Le souci majeur, c'est l'insécurité matérielle, la vie sans filet, des familles dysfonctionnelles pétées. Et on discute de ça avec des types hors sol. Je sais pas vous, mais moi je les vois, ces marqueurs sociaux qui biaisent un peu les choses dès le début. Mon premier psychiatre pratiquait la voile sur son bateau le week-end, parlait comme un érudit, why not? Mais la thérapie conventionnelle à tendance freudienne, c'était pas vraiment pour moi. Mais comme on est des bleus, en arrivant, on ne sait pas que c'est tout à fait pour nous, et on se dit, le mec c'est un médecin, il sait ce qu'il fait. Mais idéalement, il y a des couacs. Et politiquement aussi. Je ne vais pas refaire l'histoire, mais une jeune femme dans les années 2010 et la psychanalyse freudienne, c'est pas trop le bon combo. C'est ouf, parce que c'est un métier de science, d'érudition, je dirais, pour ceux à tendance psychanalytique, d'intellect, mais ce qui fait défaut, vraiment, c'est la connexion aux réalités dans lesquelles vivent les patients. La base serait pas plutôt l'intuition ? L'empathie, et puis une prise en charge globale et collective plutôt qu'individuelle.
Oh,
accélération de la vie, l'ultra-compétitivité des gens à travers leurs compétences au travail ou dans le reste de leur vie et la reconnaissance sociale d'une certaine réussite, pro, amoureuse, amicale, crée tellement de frustration, tellement de carences d'estime de soi et de sentiments d'échec quand vous n'êtes pas dans la course. Je ne pense pas que ce soit à deux, en face à face, que les choses vont bouger. Si ? Bah ouais, faut la cracher sa Valda ou sa valise, mais franchement la colère, les inégalités, l'injustice profonde, c'est pas en cabinet qu'elle va bouger. Et les yeux de Merlan Free de mon psy vont pas me calmer non plus. Ici, vous pouvez valoriser votre dépression dans mon super bureau d'orientation. Si elle a été causée par le travail, le burn-out, c'est ok, ça s'entend à peu près. Les journaux en ont causé. Et puis voilà, vous avez tiré sur la corde, vous vous êtes donné, bon. Mais maintenant, il va falloir entendre une bonne fois qu'en France, on en est à une personne sur cinq qui sera amenée à vivre une ou plusieurs dépressions au cours de sa vie. Il y a les coups durs, les traumas, la précarité, les pertes de repères, les deuils. Mais le pompon, c'est quand même la vacuité de tout ça, l'aquabondisme. Oui, j'ai croisé ce mot quelque part, qui est pas mal. Parce que ouais, à quoi bon ? À quoi bon se plier en quatre pour exister si rien n'a de sens ? Ce qu'on doit développer, c'est la résonance, le lien initial. On doit valoriser la sensibilité, avoir le droit d'être vulnérable, célébrer la fragilité. C'est 13 millions de Français, Françaises qui sont touchés chaque année par un trouble psychique, dont une grande majorité de femmes d'ailleurs. On en fait quoi de ces chiffres ? On continue de les ignorer ? On continue de faire style dans certains cercles sociaux ? Ouais, nickel, tout va bien, c'est trop cool, je m'épanouis à fond dans tout ce que j'entreprends. J'entreprends, oui. La vie n'est pas une entreprise. À la base, on était juste censé subsister, chasser, cueillir, et on en est là ? Ce que je vais relever, quand même, ce mois-ci, c'est la sortie du numéro 859 de Marie-Claire. Ouais, le magazine féminin de ce mois d'avril. Un dossier mental assez sérieux. Celle qui brise le tabou, santé mentale, en parler pour aller mieux, fait le point sur la situation de 8 femmes comédiennes, musiciennes, sportives de haut niveau, écrivaines et influenceuses, et elles prennent la parole. On y parle aussi des aidants, des réseaux sociaux, de la maison perchée à Paris et de la stigmatisation des troubles au travail. Là, c'est pas juste une petite brève. Marie-Claire sonne l'alerte et enjoint les pouvoirs publics à faire de la santé mentale une grande cause nationale, dixit Catel Pouliquen, la directrice de rédaction. Il est temps.
Quand t'es petit, que c'est l'heure de goûter et qu'on te donne un gâteau, t'es tellement content que tu danses tout seul. Et pendant que tu le manges, tu fredonnes une chanson qui n'existe pas. Quel est le projet ? J'ai déjà pensé à Motodead, c'était pas une good idea ? Bah non, vous saviez pas, mais comment ça, qui vous l'a dit ? Mais grâce à Dieu, je me suis auto-raisonné. Mon cœur a cherché et Tolstoï a résonné. Pourtant j'étais désœuvré, les problèmes je les résolvais. Mais à dire vrai, les lovés qu'on me voulait, je pouvais pas les trouver. J'allais pas voler les lovés d'un autre comme un vieux youvois. Celui que je vous vois voit tout, donc il allait tout voir. Je me suis auto-stoppé, j'ai fait de l'autopsie. Je me suis auto-soigné et Lord have mercy. On se disait encore des pâtes ce mois-ci. Mais crois-moi, c'est mieux qu'un plat moisi, cramoisi. Quand je regarde tout ça, maintenant je dis des auto-yes. Parfois je danse tout seul, je fais de l'auto-dance. Admettons que je sois fou, à moi tout seul, je suis une foule en liesse. En gros, le concept, je pratique l'auto-dance. Et je danse tout seul, et je danse tout seul. Et je danse tout seul, et je danse tout seul. Je fais de l'auto-dance, je fais de l'auto-dance. Je fais de l'auto-dance, je fais de l'auto-dance. Je suis là tout seul, chez moi, je lâche des petits pas. Et je danse tout seul, et je danse tout seul. Je fais de l'auto-dance, je fais de l'auto-dance. Je fais de l'auto-dance, je fais de l'auto-dance. Je pratique l'auto-dance comme un joueur de foot. C'est mieux que des actes manqués quand tu t'auto-loupes. Ou quand tu te faras ta loup, quand tu t'auto-croûtes. Trop s'auto-ghetto comme les ghetto youth. fut une période, je me faisais auto-pitié. J'ai mis ma vie sur la table et l'avenir m'a fait du pied. Autodidacte, j'ai fait mon auto-école. Ce que tu auto-sèmes, tu l'auto-récoltes. Et si tu t'auto-bloques, en fait tu t'auto-ségrègues. Si tu dis que c'est pas pour toi, tu t'auto-apartheid. Il faut parier sur soi, faire un auto-loto. Savoir s'écouter, se faire une auto-radio. Avec leur smartphone, ils se font des auto-photos. Je suis gardien de mon image, je suis un photomaton. Admettons, je sois fou, à moi tout seul, je suis une foule en liesse. En gros, le concept, je pratique l'auto-dance. Et je danse tout seul, et je danse tout seul. Et je danse tout seul, et je danse tout seul. Je fais de l'autodance, je fais de l'autodance. Je fais de l'autodance, je fais de l'autodance. Je suis là tout seul, chez moi, je fais des bons petits pas. Et je danse tout seul, et je danse tout seul. Je fais de l'autodance, je fais de l'autodance. Je fais de l'autodance, je fais de l'autodance. Le morceau a de pige, il me fait toujours du bien. Comme un médicament, osons un petit câlin. J'ai trucidé la honte, je danse devant tout le monde. Et si tu danses avec ta mère, franchement, t'es trop un bon. Je fais tout de suite des connexions quand j'aperçois le bonheur. Le peu de fois où il m'effleure, je sais qui est l'auteur. Et nier Dieu, autant me cracher dans un virage. Parce que cracher au ciel, c'est se cracher au visage. Ma mère m'a dit, tu sais, mon fils, ton disque est triste. Mais non, regarde maman, je danse, je fais l'imbécile. Comme quand j'étais petit, je suis là, je fais des blagues, des jeux de mots tout naze. Regarde, les gens aiment bien, n'aie pas honte et n'aie pas peur. Je vais très bien, c'est juste que j'ai grandi. C'est juste que j'ai compris pourquoi parfois tu pleurais dans le fond de la nuit. Et parfois moi aussi, tout au fond de mon lit. Alors, je me lève tout seul et tout seul comme un déjanté. Tout seul dans mon salon, je danse avec le monde entier. Je danse comme un indien, je suis Geronimo. Je danse comme un esclave, je danse comme un marron. Coincé dans la mine, je danse comme la flamme. Je danse comme les mots et les phrases de Germinal. Je danse comme John dans le meilleur des mondes. C'est les prophètes, les ascètes et les mères, meilleurs de l'homme. Et je danse tout seul, et je danse tout seul. Et je danse tout seul, et je danse tout seul. Je fais de l'autodance, je fais de l'autodance. Je fais de l'autodance, je fais de l'autodance. Je suis là tout seul, chez moi, je fais des bons petits pas. Et je danse tout seul, et je danse tout seul. Je fais de l'autodance, je fais de l'autodance. Je fais de l'autodance, je fais de l'autodance.
C'était Autodance de DC's, un artiste au texte sensible. J'espère d'ailleurs qu'aujourd'hui, vous avez pris votre meilleur plaid et vos meilleurs cookies, car notre créneau est consacré à l'espoir. Vous êtes bien sur Canal B, dans l'émission Fréquence follement curieuse. Notre thème du jour est ce qui nous donne de l'espoir et les propositions qui nous animent concernant la psychiatrie. Je suis en direct avec Yann, qui va nous présenter un billet d'humeur sur l'après-hospitalisation.
Quand on sort de l'hôpital psychiatrique, qu'est-ce qui se passe ? On est guéri, stabilisé, rétabli ? Vu qu'on garde les patients de moins en moins longtemps et que c'est la lutte perpétuelle pour trouver des lits dispo, de plus en plus de personnes sont encore très fragilisées à la sortie de l'hôpital. Et, immanquablement, le nombre de rechutes explose. En France, le nombre d'hospitalisations augmente, passant de 300 000 en 2000 à 400 000 en 2020. C'est le loup qui se mange la queue. Si la raison principale de toutes ces gabegies est la suppression des lits, il existe aussi un autre facteur qui aggrave la précarité des usagers. L'absence de prise en charge dans l'après-hospitalisation. Certes, la personne peut être suivie par les centres médico-psychologiques, CMP, ces unités psychiatriques hors hôpital ancrées dans les quartiers où vivent les usagers. En outre, on peut proposer à la personne de s'investir dans l'hôpital de jour ou de trouver des activités dans les CATTP. Mais tout ceci est-il suffisant ? Si la prise en charge médicamenteuse est complète et sérieuse, la prise en charge sociale est-elle à la hauteur du défi des troubles psychiques contemporains ? Il semble, mais cela dépend des villes et des secteurs, qu'il y ait des gros trous dans la raquette. Même si la prise en charge de la préhospitalisation n'est pas obligatoire, on peut très bien décider, en tant que citoyen libre, de buller, ou même, oh, quelle horreur pour un économiste, de ne rien faire. Mais pour tout le monde, le fait de rester chez soi en totale oisiveté, cela engendre très souvent, inexorablement, des troubles anxieux, dépressifs, psychotiques. Même si pour la majorité des gens, l'activité passe par le travail, un bon nombre d'usagers en situation de handicap n'ont pas accès au travail, ordinaire ou protégé. Pour certains, même l'objectif travail n'est pas le sujet. La question est plutôt, comment stimuler un désir qui fait cruellement défaut ? Comment retrouver l'envie de sortir de chez soi ? Comment retrouver l'appétence pour une vie sociale ? En effet, comment passe-t-on d'une situation où la maladie vient notamment les troubles négatifs de la maladie, repli sur soi, apragmatisme, à dévaster l'être social, à une situation d'équilibre socio-affectif avec une réelle existence sociale. La psychiatrie apporte des solutions via ses diverses institutions. Mais l'approche basée sur le médical ne répond pas forcément à tous les besoins psychosociaux. Se réhabiliter, se rétablir, ce n'est pas suivre un chemin tout tracé ou des protocoles miraculeux. Non, l'insertion dans une dynamique sociale vertueuse est le fruit d'un ajustement, d'essais, de tâtonnements, de bricolage, où la complexité du monde social doit apporter une réponse personnalisée. Il existe une imbrication, un enchevêtrement entre les soins, notamment par rapport au traitement, et la quête sociale pour trouver sa place dans le monde. Une réelle prévention des maladies psychiques serait déjà de ne laisser personne sans solution après l'hospitalisation. En plus des alternatives médicales ou socio-médicales institutionnelles, il faudrait que tous les soignants et les travailleurs sociaux aient une connaissance fine de l'offre associative pour les usagers, dans leur territoire de vie. En effet, il existe à Rennes et ailleurs une multitude d'associations qui se sont spécialisées dans la résilience psychique. Sans beaucoup de moyens, mais avec une réelle foi humaniste et une sacrée attention à la singularité des personnes, elles peuvent permettre une reconstruction du psychisme. En redonnant du pouvoir et du sens à tous ceux qui se sont perdus dans les affres d'un monde conformiste et disciplinaire. La diversité et la richesse du monde associatif exigent une connaissance éprouvée de la part des professionnels pour qu'ils puissent orienter l'usager vers une association qui correspond à ses besoins, à son degré d'autonomie et à ses envies. Après tout, bien connaître les associations de son territoire, n'est-ce pas une compétence que le seul soignant doit maîtriser au même titre que savoir faire une prise de sang ou connaître les médicaments psychotropes ? Bien sûr, la réponse associative ne remplace pas l'approche médicale, elle est complémentaire. D'ailleurs, à Rennes, les décideurs l'ont bien compris, puisqu'ils ont mis en place des maisons des usagers où tout un chacun peut venir rencontrer des associatifs, prenant le temps d'échanger et de poser des questions dans des espaces conviviaux. Ainsi, la MDU du CAGR, la MDUA de la clinique Saint-Laurent. Alors, après l'hospitalisation, il faut que je puisse compter sur une prise en charge médicale et sociale. Je dois m'appuyer sur des gens qui prennent le temps de m'écouter, des gens qui me transmettent leurs désirs contagieux, des gens qui ne vont pas me juger, mais qui vont croire en mes ressources et en ma résilience.
C'est un très beau message. Merci Yann. Il est primordial de penser l'après, quand on est à l'hôpital, et c'est déjà une lourde charge. L'extérieur peut être encore plus hostile, stimulant, brutal, après une sortie. Et il serait primordial que cette prise en charge nous soit allégée et soit adaptée. Qu'on ait plus facilement accès aux associations, à de l'aide médico-sociale, dès que l'on quitte les murs d'un HP, pour éviter d'y retourner et construire sa vie avec plus de sérénité. Ton texte m'a donné envie de partager des paroles douces. simple mais efficace. Nous allons maintenant écouter « Ça va aller » de This Is pour se donner une bonne dose de réconfort.
T'as tout mis, t'as tout donné, t'as payé le prix, t'as encore tout raté. T'es triste et t'es tout seul, ils comprennent pas. Tes risques et tes coups de gueule, encore moins tes choix. T'as tout dit, t'as trop parlé, et c'est fini, t'as encore tout gâché. T'as honte et t'es tout seul, tu veux pas rester. Aller loin car tu t'en veux, et ne plus rentrer. T'es triste et t'es toute seule, tu penses au pire. Plus jamais de nouvelles, t'aimerais juste dormir. Et tu n'as plus cet amour. Jamais d'entracte, trop de charge sur ton dos. On t'a déjà dicté, t'es quelqu'un de merveilleux. On t'a déjà dicté, t'es quelqu'un de merveilleux. On t'a déjà dicté, t'es quelqu'un de lumineux. On t'a déjà dicté, t'es quelqu'un de lumineux. T'as connu pire, tu feras mieux. Et ça va aller.
Est-ce que vous vous souvenez du harcèlement médiatique dont a été victime Amy Winehouse ? Oui, je sais, ça casse un peu l'ambiance, mais j'avais envie d'en parler suite à l'interview avec Alix et Luc de la dernière émission. Je rappelle d'ailleurs que vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur le site de Canal B, rubrique Fréquence follement curieuse. Je disais donc qu'Alix et Luc ont été interviewés au sujet de leur parcours avec l'addiction. Où est le lien avec l'espoir ? Je vais y venir progressivement. Le début de ce billet d'humeur va être assez back to black, jusqu'à tirer vers le vert espoir. Amy Winehouse a connu un acharnement médiatique, comme peut en témoigner cet extrait des Grammy en 2007.
And Amy Winehouse for rehab. Can somebody wake her up this afternoon around 6 and tell her... Makes Lindsay Lohan look cool, though.
si vous ne parlez pas bien l'anglais, le présentateur l'insulte, pour résumer. Il se moque ouvertement de sa maladie alcoolique, maladie qui finira par l'achever 5 ans plus tard, le 23 juillet 2011. Jour où elle a été retrouvée morte avec 4,16 grammes d'alcool dans le sang. Les médias ont rarement été tendres avec les personnes malades de toxicomanie, en particulier les femmes, ni avec les femmes tout court d'ailleurs. L'exemple tragique d'Amy Winehouse relève de plusieurs discriminations. Vivre les oppressions d'une personne toxicomane, vivre les oppressions d'une personne atteinte de troubles psychiques, vivre les oppressions d'une personne sexisée, ici une femme. Si on prend ces trois axes avec toute la singularité d'Amy Winehouse, plus un acharnement médiatique, je pense qu'on peut mieux comprendre ce qui l'a mené jusqu'à son alcoolémie fatale.
تلاقيت مع زهري قال لي قطولي وتمرمت كاين اللي يبكي على زهره كاين اللي حيبكي في قبره كاين اللي شاب في صغره كرهنا من الحياة كاين اللي يبكي على زهره كاين اللي حيبكي في قبره كاين اللي شاب في صغره تلاقى الحق مع الباطل ماشك في الخطوة الباطل خلاص لقى الحل باش يحكم غدوة بين ركعيان قالوا حفيت من المشياء وزادلو باريلي نعملو كي سرج الحصان كاين اللي يبكي على زهرو كاين اللي حيبكي في قبره كاين اللي شاف صغرو تلفونا لقات صاروا كرهنا بهذا الحياة كاين اللي يبكي على زهره كاين اللي حيبكي في قبره كاين اللي شاف صاروا تلفونا
En partant d'Amy Winehouse, je souhaite mettre en lumière d'autres personnes opprimées. Les invisibles, qui n'osent plus, à renfort de rejet, ne plus être qu'invisibles. Pourtant, ils et elles sont bien visibles dans l'espace public. Je parle ici précisément des sans-domicile fixe, SDF ou sans-abri tout court. Chacune de ces personnes vit avec plusieurs axes d'oppression. Imaginez un peu une carte. La précarité, le racisme, le sexisme, la psychophobie, le validisme, etc. etc. Et chacune de ces personnes subit donc une oppression lourde, singulière, radicale. En plus de celle d'être invisible, triplement ou quadruplement mis à l'écart, ignoré, malmené, violenté, méprisé. On est tous et toutes acteuristes de ce système, surtout quand, à l'inverse, on accumule des privilèges. Attention, on ne choisit pas forcément nos privilèges, on choisit juste ce que l'on en fait. Par exemple, en France, être un homme blanc cisgenre, aisé et né dans un milieu aisé, dépourvu de handicap, c'est déjà avoir plusieurs privilèges pour s'assurer une longévité et plus de liberté dans notre société actuelle. Les choix dont on dispose en tant que Français ou Française, avec des revenus au-dessus du seuil de pauvreté, influent indirectement avec les personnes plus défavorisées. Nos choix quand on vote, quand on achète, quand on dépense, quand on regarde mal ou insulte ces fameux « fous des abribus » qui parlent tout seuls et sentent la liche, ou quand on insulte ou regarde mal ce cousin qui a séjourné en hôpital psy, qu'on juge tantôt trop fragile ou dangereux et imprévisible. Cette liste de choix étant, et d'exemples d'ailleurs étant non exhaustive. Pour enlever une épaisse couche à mon oignon des oppressions, il y a aussi les humilier ou moquer au travail pour moultes arrêts maladie, ceux qui expriment leur souffrance en pétant parfois les plombs contre leur patron, en gueulant sur le client ou patient de trop. Où trouver une lueur d'espoir? Vous vous souvenez du verre dont je parlais tout à l'heure? Il arrive, le verre espoir. Pour moi, oser, c'est espérer. Peu importe notre rôle et place dans la société. Je m'adresse d'abord à vous, soignants, soignantes et travailleurs, travailleuses sociaux. Pour retrouver espoir, je vais vous demander d'oser. Osez accompagner vos bénéficiaires ou patients comme des personnes et non comme des numéros, en respectant leurs droits et leur dignité, en osant remettre en question votre hiérarchie, la culture présente dans votre établissement ou branche, celle qu'il existe entre le soignant sachant tout et les patients, par exemple. En osant rejoindre des syndicats, militer, s'intéresser à ce qui donne du sens aux vies des personnes que vous accompagnez, à chacune de ces personnes. Comme je l'ai dit, une personne n'est pas un numéro, mais une singularité avec des besoins et des désirs propres à elle. S'intéresser même à ce qui peut vous sembler farfelu, hors norme, extravagant, fou. Écoutez, tout simplement, écoutez. Écoutez la personne de l'autre côté de votre bureau. Écoutez les discours des personnes que vous accompagnez sans généraliser, sans tomber dans le cynisme.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. En las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco, cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. dicha de quebranto. Lodo material que forman mi canto y el canto de ustedes que es el mismo canto y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Je vais aussi vous proposer un petit exercice de remédiation cognitive avec plusieurs questions. Pourquoi avez-vous choisi ce métier-là à l'origine? Pourquoi soignant, travailleur social et pas un autre métier? Pourquoi continuez-vous d'exercer maintenant? Qu'est-ce qui vous oblige à rester dans un service que vous jugez maltraitant? Comment pouvez-vous agir à votre échelle? Pourquoi ne pas unir nos savoirs et nos besoins pour de meilleures conditions de travail, de meilleurs accompagnements? Et vous, moi, toi, nous, osons! J'ose le « nous » car notre point commun est dans la galère que nous partageons, à différents degrés de brûlure, sur des zones différentes. Notre point commun, c'est la douleur, la détresse, la colère, les fous, les cassos, les tarés, les marginaux, les imprévisibles, les insupportables. Je précise que j'utilise ces mots pour me les réapproprier. Il ne s'agit pas d'insultes. Si tu ne te sens pas concerné, il y a d'autres mots plus fleuris. Nous devons, pour notre survie, oser toquer aux portes. Oser appeler ce numéro d'écoute. Aller à la rencontre de travailleurs sociaux, d'un syndicat, à l'hôpital, chez ce psy, ou en changer, à une permanence juridique. Je sais que la ténacité, aussi féroce soit-elle, peut s'étioler sans réponse et sans écoute. Pourtant, nous devons persister. Si ce professionnel ne nous donne pas une attention légitime, allons sonner ailleurs. Osons partir, osons dire non. Si le ou la psy du 3114 ne nous convient pas, on peut rappeler plus tard et quelqu'un d'autre répondra. Osons. Si on veut s'initier à un nouveau loisir ou réaliser ce rêve de gamin ou même essayer d'être en couple, essayons. Allons toquer à la rencontre de nous-mêmes. Osons, encore, osons, et ainsi de suite.
Slow down, you crazy child. You're so ambitious for a juvenile. But then if you're so smart, tell me why are you still so afraid? Where's the fire? What's the hurry about? You better cool it off before you burn it out. You got so much to do and only so many hours in a day. Told that you can get what you want or you can just get old. You're gonna kick off before you even get halfway through. Ooh, when will you realize Vienna waits for you? Slow down, you're doing fine. You can't be everything you wanna be before your time. Although it's so romantic on the borderline tonight, tonight. Too bad, but it's the life you lead. You're so ahead of yourself that you forgot what you need. Though you could see when you're wrong, you know you can't always see when you're right, you're right. You got your pride, but don't you know that only fools are satisfied? Dream on, but don't imagine they'll all come true. Ooh, when will you realize Vienna waits for you? Child,
and take the phone off the hook and disappear for a while. It's alright, you can't afford to lose a day or two. Oh, when will you realize Vienna waits for you? And you know that when the truth is told, that you can get what you want, or you can just get old. You're gonna kick off before you even get halfway through. Ooh, why don't you realize Vienna waits?
Trouvons d'autres personnes qui vivent les mêmes galères ou sont vers un aller mieux. À mon sens, les associations restent l'une des portes les plus accessibles et douces pour être enfin entendues. À Rennes, il y en a une multitude que bien sûr beaucoup de professionnels ne connaissent pas. La pile de dossiers que nous sommes comprend déjà trop de numéros à placer dans des cases arbitraires. Et ces pros, malgré qu'ils soient souvent de bonne volonté, restent des humains pourvus de préjugés et qui veulent se protéger de la souffrance. Ces associations, ce sont par exemple les Amis de la Santé, Borderline Espoir, le Planning Familial, ISKIS, les Alcooliques et Narcotiques Anonymes, les groupes d'entraide mutuelle. Et pas à pas, nous pouvons trouver une voie possible, viable, durable. Les statistiques n'ont parfois pour résultat que de nous déshumaniser ou nous rendre fatalistes. Non, ce n'est pas parce qu'un médecin ou plusieurs vous a dit que vous devriez prendre ce cachet à vie, que c'est votre réalité. Non, ce n'est pas parce que vous avez une telle maladie qu'il faut exactement ce mode de vie. Tout est éphémère, malléable, en constante évolution. N'oublions jamais nos droits.
But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Go on now, go walk down the door. Try to
S'il ne convient pas, rappelons-nous que ce professionnel n'est qu'une goutte de sang dans un organisme. Surtout, continuons d'être les explorateurs singuliers de nos vies et non des spectateurs assommés par des cubes, cases, cachets, prescrits à la va-vite, du déterminisme et de la fatalité héritée des tragédies grecques. Le tout réside à mes yeux dans un savant dosage entre persévérance et patience. Cependant, je ne veux pas tomber dans un discours moralisateur ou de développement personnel ou de meuf plus privilégiée qu'une autre personne. Je ne dis pas qu'oser sera facile, sans risque et sans souffrance. Je dis qu'en mesurant les risques, essayer peut être mieux qu'un regret. N'oublions pas que patient vient du latin patientio, endurer, mais que faire preuve de patiento, c'est déjà parfois notre quotidien. Alors pourquoi ne pas oser en même temps ? Je rappelle qu'en description de chaque podcast, vous pouvez trouver des ressources. Internet et le bouche à oreille en fourmillent. Parfois, avec un peu de chance, dans le chaos, on peut tomber sur un bon tuyau. C'est pour ça qu'on ne doit rien lâcher. J'invite donc les professionnels et les précaires et les psychiatrisés et tous les oppressés à insister sur le respect des droits, de la décence et de la dignité, à humaniser, à opter pour la singularité et se battre pour ne jamais perdre son ou ses multiples identités. Se battre, même à l'intérieur de soi, pour ne pas s'auto-stigmatiser. L'étincelle surgit parfois dans l'inattendu. Et c'est pas de notre faute si nous sommes les patientos ou patientis qui souffrons. Ce qu'il faut, c'est trouver une place, la prendre, et si elle n'existe pas, la créer. Un brouillon, un échec, oser, sans parfois obtenir le résultat souhaité, c'est déjà un premier signe de rébellion.
Né de l'amour sans guérison, je suis un enfant du divorce. À chaque feu rouge, je pars au front. Un maquisard bourré dans les bars de Lisbonne. Du vin rouge et des promesses, voilà de quoi partir pour un an. Le bonheur, je sais très bien que ça dure qu'un temps. J'irai au bout de ma quête. Je cherche l'apaisement et j'ai la soif de vin. Je le ferai pour cet adolescent, les veines ouvertes dans sa salle de bain. Faut y croire chaque matin. Tu te rends compte, j'ai de ma passion, faut qu'on s'élève. Ne regarde pas derrière et prends ma main. En plein dans la vingtaine, j'ai l'impression que c'est maintenant ou jamais. On va de l'avant, même si les regrets nous courent après. On pourra dire qu'on aura fait, les autres ils diront quoi. Ils jugeront tel un esprit fermé face à un punk iroquois. On essaye de vivre nos rêves, même quand on s'affiche en bas. Je traîne avec des prix Nobel et des mecs pris en flag. Résultat, des anecdotes sur Fleury, la santé ou même mot. Overdose de Paris de ces ghettos. Mamalo va papa love, que les miens soient garants. Je dois presque tout à mes parents, y'a trop d'amour et c'est flagrant. Et pas tant, je vois des bâtards m'envier. Quand moi j'ai envie de bâtard, y arriver c'est difficile. On laisse du sang sur l'étendard. Je mets potes près de moi, ils savent que je suis ma bête noire. Il manque une crouma sur quelques dates, j'dors pas en belle soir. À chaque déception, on me répète que c'est ça la vie. Même face au destin écourté de Mouchine et Laramie. Très peu de monde dans mon cercle d'amis. Et oh, avec j'vais attraper le bonheur, c'est mon lasso, c'est mon paradis. Sensible mais pas fragile, beaucoup de choses m'attendrissent. Tu veux savoir ce que j'ai dans le beat, j'suis la Loire qui jette dans l'Atlantique. J'essaye de faire en sorte que chaque jour soit mieux que la veille. Prépare la mélodie. J'inspire les vapeurs de mon pote. Il m'avait pourtant promis d'arrêter la beuh indienne, tu sais. Celle qui t'emprisonne dans ton lit. Je lui raconte ma vision de l'Écosse. Les plaines plus vertes que sa drogue. Mais pour lui, peu importe. Parfois j'ai peur de mourir incompris comme Arto. Je recule loin des autres. Je veux pas finir entre le marteau et l'enclume. J'ai laissé mes doutes les plus dangereux sur le tarmac. L'aéroport, théâtre à ciel ouvert. Je veux être le roi du spectacle. Adulé, voir mes blessures se refermer. L'espoir meurt en dernier.
C'était Beryl pour l'émission Fréquence follement curieuse sur Canal B. J'étais aujourd'hui en compagnie de Yann. Notre thème du jour était l'espoir. Nous avons imaginé un bureau idéal pour nous orienter en cas de souffrance psychique, des projets pour les sorties d'hospitalisation, un vent de révolte et de cohésion. Les titres que vous avez entendus étaient ceux de This Is, Souad Massi, Giorgio, Gloria Gaynor Isaac Delusione, Billy Joel, vous pouvez retrouver toutes nos ressources en description sur le site de Canal B ainsi que nos précédents podcasts. Si vous avez trop le blues et que la musique ne suffit pas, n'oubliez pas qu'il existe le 3114 en cas de pensée suicidaire. N'hésitez jamais à demander de l'aide. Sur ce, prenez soin de vous et passez un beau début de printemps. À bientôt sur les ondes.